Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Emmanuel Allois, pour parler de l'industrie d'art romaine tardive d'Aloïs Riegel aux éditions Macula. Je suis par ailleurs convaincu que l'art s'arrêtera lui-même devant l'extrême et nous en avons déjà les premiers symptômes. Vous êtes maître de conférence en philosophie à l'université de Saint-Gall en Suisse, Emmanuel Allois, et vous enseignez aussi l'esthétique à Paris, Paris 8, Vincennes, Saint-Denis, au département d'art plastique. Vous êtes l'auteur de La résistance du sensible, un livre qui a été publié chez Quimet en 2008, de Penser l'image aux presses du réel, 2 ans plus tard, ou encore du sensible à l'œuvre que vous avez publié il y a 2 ans à La lettre volée. Aujourd'hui, vous signez la postface de ce très grand ouvrage d'Aloïs Riegel, qui est traduit pour la première fois en français par Marie-Hélène Weber sous le titre de L'industrie d'art romaine tardive. Un livre qui avait paru à Vienne en 1901, ce qui ne nous rajeunit pas.
Non, c'est un peu paradoxal hein, de se poser comme ça sur le chevet d'un livre qui, maintenant, bientôt, plus de 110 ans, et qui paraît donc enfin... c'est très paradoxal, une espèce d'actualité vraiment tardive, pour reprendre le titre de l'ouvrage. Et c'est évidemment une façon de réparer aussi cette injustice qui avait été faite à Riegel, c'est-à-dire qu'à peu près toutes les autres langues occidentales, européennes, avaient déjà leur traduction de Riegel. Et en France, on a dû attendre cette année. Mais
pourquoi alors cette longue attente? Est-ce que ce sont des raisons économiques ou...
Alors il y a certainement avant tout des raisons économiques, c'est-à-dire des raisons formelles, des raisons matérielles, parce que c'est quand même
un
ouvrage, c'est un gros bouquin, c'est un ouvrage très volumineux qui fait dans la pagination des éditions Macula, presque 500 pages, si je ne m'abuse.
500 grandes pages.
500 grandes pages, absolument. Et ce qui explique peut-être qu'on a attendu aussi longtemps. Ça, c'est les conditions formelles ou matérielles. Mais je pense qu'il y a d'autres raisons à ça aussi. Et peut-être qu'on aura un peu l'occasion d'en parler ou d'essayer d'un peu mieux comprendre pourquoi cet ouvrage est si étrange, une sorte d'ovni quand même, quelque part, qu'on a du mal à cerner.
Commençons par parler un peu de Riegel. Il est mort brutalement 4 ans après la publication de ce livre. Il était jeune, il avait 47 ans, et il fut conservateur au musée des arts décoratifs de Vienne. Il est à l'origine de quelques-uns des concepts clés de l'histoire moderne de l'art. Son influence, à ce titre, a été considérable.
Oui, alors il faut dire que autant très peu de lecteurs français avaient vraiment lu cet ouvrage, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, parce qu'il n'avait pas été traduit, autant son nom, en fait, était très connu. Et c'est dû au fait qu'il a, en fait, influencé de façon éminente toute la théorie du XXe siècle, les théories formalistes, les théories sur les matériaux, les théories de la vision, et des auteurs. Alors, il faut citer toute la tradition qu'il a, d'une certaine façon, inaugurée. Après lui, il y a eu des gens comme, par exemple, Vohringer, il y a eu des gens comme Wölfflin, il y a eu des gens comme toute la pensée qui a essayé de développer une pensée, ce qu'on a appelé l'analyse structurale de l'école de Vienne, mais après aussi toute la réception américaine, hein, parce qu'il faut savoir que tous les grands historiens de l'art, de Gombrich en passant à Michael Fried, mais même les formalistes comme Clement Greenberg, les théoriciens de l'art américain des années 50-60, eh bien, se sont référés ou bien directement ou indirectement à Hegel. Donc, au fond, tout le monde l'avait lu et personne ne l'avait lu.
Je vais peut-être vous surprendre, mais ce n'est pas la première fois qu'il est question de Hegel dans Du jour au lendemain. La première fois, c'était il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans même, avec Hubert Damisch, qui était venu présenter son autre grand livre intitulé « Questions de style », oui, publié chez Azan dans la collection 35-37. Et Damisch avait signé la préface de ce livre sous-titré Fondement d'une histoire de l'ornementation.
Oui, alors c'est une magnifique introduction, celle de Damisch à cette œuvre Question de style, qui effectivement avait déjà été traduite. Il y a quelques autres œuvres de Hegel qui ont déjà été traduites précédemment. Il y a le livre quand même sur l'art baroque. Il y avait notamment sur son ouvrage sur le culte des monuments, qui, si je ne m'abuse, a même été traduit au moins deux fois en français. Il y a d'autres textes, notamment sur le portrait de groupe hollandais, et puis notamment cet ouvrage fondamental qui est donc « Question de style ». Et le sous-titre indique bien une tension qui est évidemment très significative chez Hegel, qui est la tension entre une approche formaliste, donc un ornement, bon, c'est quelque chose qui évidemment ne renvoie pas des objets dans le monde, c'est avant tout quelque chose qui est soumis à une analyse formelle, mais qui en même temps a une histoire. Donc on voit bien chez Hegel qu'il y a cette tension entre une pensée de la forme et une pensée du devenir, une pensée historique. Et donc, ce n'est pas du tout, évidemment, un hasard que quelqu'un comme Damisch se soit intéressé à ce genre de tension, puisque c'est, au fond, une obsession chez Hubert Damisch qui est récurrente, qui traverse toute l'œuvre de Damisch.
Hegel, c'est l'école viennoise de l'histoire de l'art. Et dans la note biographique qui a été rédigée par Julius von Schlosser, l'auteur de « Des cabinets d'art et de merveilles » que ces mêmes éditions Macula ont publié l'an dernier, Schlosser dit que Hegel est toujours resté, depuis ses débuts, au plus profond de lui, l'autodidacte qui ne cesse de se former.
Oui, c'est une très belle image de Schlosser qui avait vraiment fréquenté Hegel de très près et qui le connaissait très très bien. Et je pense qu'il y a quelque chose de très vrai dans cette image, parce qu'on sent bien qu'il y a un côté parfois enfantin chez Hegel, hein, qui ressort, c'est-à-dire que même sous les plus grands formalismes, sous son côté parfois hegelien, alors on sent une espèce de grand souffle de l'histoire, l'esprit, même sa notion très problématique du vouloir artistique, le Kunstwollen, sur lequel on s'est tellement arrêté, peut-être un peu trop. Il y a quelque chose, au fond, d'une sorte de plaisir de l'expérimentation, d'une espèce de rapport rapproché avec les choses. Il adore, on sent qu'il adore prendre en main les choses. Et c'est pas un hasard que c'était pas avant tout un érudit, mais c'était un homme de musée, c'était un homme, un conservateur. Donc il a commencé par les collections de tapis. Et j'ai envie parfois je me dis, mais voilà, on sent encore dans cette description, parfois très froide des objets, mais soudain, quelque chose est en train de refaire surface, quelque chose de l'ordre de la touche, et on sent que Riegel, en fait, est en train d'apprendre, alors même qu'il se confronte aux objets. Donc c'est peut-être ça, la vérité de cette image de l'autodidacte.
À l'origine, il est historien ?
Alors, il a fait des études donc d'histoire et de philosophie, comme c'était très courant à l'époque. Et c'est vers la fin de ses études qu'il se tourne vers ces disciplines naissantes, parce qu'il ne faut pas oublier que l'histoire de l'art, c'est quand même une discipline très récente. Donc, il commence à s'intéresser à l'histoire de l'art, et une histoire de l'art qui se cherche, hein, une histoire de l'art qui se cherche, puisqu'il faut se demander, eh bien, de quelle façon on va construire, on va asseoir les nouvelles catégories, qu'on emprunte un peu à l'histoire, un peu à la philosophie, un peu à d'autres formes de savoir. C'est aussi la même époque à laquelle est en train de se former une autre science comme la sociologie. Bon. Et donc Riegel va négocier un peu avec ces différentes formes de savoir. Et dans cette incertitude, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement fécond, parce que les choses ne sont pas encore tout à fait arrêtées, ne sont pas encore tout à fait assurées. C'est un peu comme quand on lit Platon, on sent bien qu'il est en train de forger un vocabulaire philosophique, mais en même temps, il n'est pas encore tout à fait arrivé. Donc il y a une espèce de moment presque anarchique, alors même que tout se veut être extrêmement organisé chez Riegel.
Vous parliez de tension tout à l'heure, Emmanuel Halloa. Et là, chez Riegel, il y en a une qui consiste à aller vers certaines périodes jugées décadentes.
Oui, alors ça, c'est évidemment la première des surprises. C'est déjà la première fois qu'on entend ce titre, c'est quand même un peu, je vais pas dire barbare, mais en tout cas un peu rébarbatif, et ça donne pas forcément envie d'ouvrir un livre qui s'intitule « L'industrie d'art romaine tardive ». Alors c'est déjà assez rébarbatif en français. Ça l'est pas beaucoup moins en allemand, hein, « Spätrömische Kunstindustrie ». Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre étrange que les éditions Macula, autour de Véronique Hirsin et de son équipe, ont eu, je crois, l'intelligence de garder, parce qu'on aurait certainement pu trouver des titres plus vendeurs, mais je crois qu'il n'y avait pas d'autres termes, d'autres titres qui pouvaient rassembler, qui pouvaient réunir, qui pouvaient résumer un tel ovni de livres. Et donc l'industrie d'art romaine tardive, c'est donc déjà une approche de cette époque, certainement délaissée à la fin du 19e siècle, mais je pense qu'il est encore toujours aujourd'hui, c'est-à-dire cette immense époque qui va de la fin de l'Empire romain, en gros de Constantin, jusqu'à Charlemagne. Donc les Autrichiens et les Allemands, de façon générale, appellent l'époque des invasions barbares. Et donc, il appelle ça l'époque d'art romaine ou d'art romain tardif, ou l'époque romaine tardive. Alors, il faut dire aussi que c'est pas forcément lui qui est allé vers cette époque. C'est une commande. Et c'est intéressant de voir que tout chez Riegel procède d'une espèce de non-choix. Hein. Il y a une espèce de non-volonté qui revient. C'est quelqu'un qui travaille un peu sur commande, parce que en 1894, il est un jeune conservateur donc dans ce musée ce qui est aujourd'hui le musée des arts appliqués à Vienne, hein. Les collections qui viennent d'ailleurs d'être de nouveau rendues accessibles au public dans une magnifique présentation. Donc j'invite vraiment tout le monde à aller le voir. Les tapis que Riegel avait rassemblés, catalogués sont à nouveau disposés et suspendus. Donc, il s'occupe de ces collections qui sont les collections de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et donc, dans la partie orientale de l'Empire, donc dans la partie hongroise, sur ce qui était à l'époque les terrains en fait des provinces romaines de Dacie, de Pannonie, d'Illyrie. On fait des découvertes, des fouilles, et il faut évidemment organiser tout ce matériel. On demande à Rigol, mais à tant d'autres archéologues et historiens, de rassembler ces matériaux et d'écrire des textes. Et Rigol décide donc de contribuer à ce projet. 5 volumes sont prévus. Et il va écrire, il projette d'écrire pour le dernier volume un texte autour des mosaïques, également de cet art appliqué, qu'il n'invente pas le terme. Hein. L'industrie d'art, c'est un terme qu'il a pas inventé, mais qui indique donc cette forme d'art qui ne connaît pas d'artiste, qui n'est pas lié à une subjectivité d'un artiste, mais qui en plus... s'éloigne des canons idéaux de l'art ancien. Donc, en certain sens, on s'éloigne doublement de l'idéal de la Renaissance qui est lié à l'artiste individuel. Et donc, il va s'attacher à ces objets et progressivement, ça donne en fait un immense... ça commence à devenir un gros manuscrit et donc il va en faire un livre à part entière qui va donc s'appeler la Spätrömische Kunstindustrie, l'industrie d'art romaine tardive, à partir des fouilles. On a enlevé le sous-titre hein, pour cette édition française, mais à partir des fouilles de l'Empire austro-hongrois. Et il se rend bien compte qu'il ne peut pas parler juste de ces choses-là, mais qu'il faut qu'il contextualise, donc que les lecteurs ne soient pas surpris. Hein, ça ne parle pas que d'industrie d'art, pas que d'objets quotidiens ou d'objets d'art appliqués. Et ça ne parle pas que de l'époque romaine tardive. Ça parle de beaucoup plus que de ça. Mais on sent bien que c'est quand même autour de cette époque que tout s'organise. Et d'ailleurs, Rigol le dit à un certain moment. Il me dit « J'ai compris que le problème de cette époque des invasions barbares était le problème le plus important de toute l'histoire de l'art. » Alors là, vraiment, on est face à une espèce de d'énigme. Pourquoi Rigol a considéré que tout se jouait, au fond, tout le destin de l'art et de son écriture, de son histoire, se jouait dans cette époque tellement marginale et délaissée par les autres savants.
Dans cette époque, il découvre de nouveaux types de perceptions.
Voilà. Alors, c'est peut-être ça, à partir de là. C'est-à-dire que il y a très peu de sources. Hein, il y a très peu de sources écrites. Donc, il faut partir des objets. Et je pense que ça va être ça, sa clé. Il est obligé d'analyser les objets, de les regarder de très près, de les prendre en main. C'est ce qu'on lui a souvent reproché. On lui dit, mais ce n'est pas un archéologue, ce n'est pas vraiment un historien parce qu'il travaille si peu sur les sources. Et bien, je pense que c'est vraiment là que se trouve l'intérêt, que se situe l'intérêt de Rigol. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va théoriser à partir des objets. Pas toujours, d'ailleurs. Parfois, il lui les force aussi d'une espèce de grand récit hegélien. Mais parfois, il atteint une espèce de tact, hein, une espèce de rapprochement avec les objets tout à fait extraordinaires. Et donc, il va s'intéresser à ces objets eh bien, qu'on ne contemple pas, qu'on ne peut pas voir de loin, mais qu'on est obligé... de toucher, qu'on est obligé, par exemple, d'appliquer. C'est des objets, véritablement, d'un art appliqué. Ce sont des fibules, ce sont des broches, ce sont des fourreaux, ce sont des objets de proximité, des objets quotidiens, ce sont des objets d'ornementation et qui, donc, ne rentrent pas dans la grande distinction qui est celle entre les arts appliqués et les arts contemplés, les arts nobles et les beaux-arts, puisque justement à cette époque-là, il n'y a que ça. Donc qu'est-ce qu'on fait avec une époque qui ne connaît pas cette distinction ? Et ça nous oblige à reformuler évidemment toutes nos catégories. Et il en vient à se demander, est-ce que de la même façon que nos catégories de l'art ne sont pas véritablement idoines pour décrire cette forme d'art, est-ce que peut-être notre forme de perception doit être modifiée? Et il va arriver une intuition qui est une intuition que d'autres développeront bien mieux que lui d'ailleurs, mais comme Walter Benjamin, un de ses premiers grands lecteurs, qu'il y a donc quelque chose comme un changement dans les régimes de perceptifs, dans les régimes perceptifs, et peut-être même quelque chose comme, la formule n'est pas à lui, mais comme une histoire de la perception.
Il va dégager des qualités sensorielles.
Voilà. Alors, il va par exemple se demander qu'est-ce qu'il en est de la vue. Qu'est-ce qu'il en est de la vue? Est-ce qu'il y a quelque chose comme un devenir de ces qualités de la vue qui ne sont pas toujours que des qualités qu'il va appeler optiques, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément que des qualités que l'on saisit par exemple par un regard à distance, c'est-à-dire un regard qui, par exemple, reconnaît, un regard qui reconnaît les formes, qui identifie, mais un regard qui se rapproche, au fond, beaucoup plus du toucher, c'est-à-dire d'un regard qui est palpation par le regard, dira plutôt Merleau-Ponty, qui est une sorte d'engagement avec la matière de l'objet, tout en restant malgré cela bien de l'ordre de la vue. Hein. Donc c'est pas une théorie de la synesthésie, c'est pas une théorie du mélange des régimes sensoriels, mais c'est des qualités à l'intérieur de la vision qu'il va appeler, par exemple, des qualités tactiles, ou plus tard il va aussi parler des qualités haptiques, hein, du toucher en grec, et donc des modalités qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce regard à distance, un regard un peu froid et impassible que l'on associe par exemple au musée de la fin du 19e siècle.
Il y a une chronologie des périodes à la toute fin du volume pour permettre au lecteur de se repérer dans la Rome antique. Et c'est l'année 313 qui est choisie comme limite de la première période, si bien que l'art romain tardif est considéré comme rattaché au Moyen-Âge.
Oui. Alors bon, ça, ce sont des périodisations qui ont suscité, évidemment, qui ont fait couler pas mal d'encre. Il essaye de dégager quelque chose de... à la fois de l'ordre des époques, de la segmentation, hein, de la succession des époques, et à l'intérieur de ces époques, quelque chose comme on parlerait peut-être aujourd'hui de régime de l'art, et puis de régime de la perception. Et en même temps, à l'intérieur de ce récit-là, il y a énormément de chevauchements. Et c'est tout l'intérêt d'une lecture attentive et approfondie de cet ouvrage, c'est qu'on voit bien qu'il développe une théorie et qu'il vient contredire constamment sa propre théorie, parce qu'il va montrer qu'il y a des superpositions, des chevauchements. C'est-à-dire qu'il y a un grand récit qui dit, au fond, qu'il y a une prise en considération progressive du spectateur, donc ce qu'il va appeler la perception optique, hein, et qui va, au fond, jusqu'à la modernité, hein, qui va permettre, en fait, l'émergence d'un spectateur désengagé. Et en même temps, il nous indique bien pourquoi cela va de pair avec une redécouverte des valeurs tactiles. C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'à la fin, 313, ça marque la fin d'un idéal antique de la beauté, qui était, lui, lié à un idéal de la contemplation. Donc, il va nous montrer comment, dans... la basilique paléochrétienne, on a progressivement la découverte de quelque chose comme la possibilité de se mouvoir librement dans un espace, tout en étant encore dans un espace qui est clos, qui est séparé du reste. Donc il va nous montrer comment il y a à la fois la découverte d'espaces ajourés, d'espaces de transparence, de translucidité, des espaces qui sont des espaces de transition, mais comment tout ça, ça doit être repris plus tard, ça doit être repris dans ce qui va l'intéresser, hein, à l'époque gothique, qui va vraiment véritablement permettre cette constitution d'un espace mobile qui sera l'espace de la cathédrale gothique. Donc ça se joue au niveau de l'architecture. Il montre bien que ce qui se joue dans l'architecture ne correspond pas forcément à ce qui se joue au niveau de la peinture ou des mosaïques ou des fresques. Donc il dissocie très bien une histoire des matériaux, une histoire des techniques, une histoire des arts et une histoire des perceptions. Donc on ne peut pas rabattre une forme d'art sur l'autre. Il n'y a pas une époque qui imposerait un style perceptif unique. Il n'y a pas une époque qui concevrait l'art selon un modèle unique. Ça, c'est une des autres grandes découvertes, je crois, de Rigol, qui nous invite, au fond, à repenser constamment les catégorisations qu'on applique aux œuvres qu'on analyse.
Parmi les concepts clés que vous évoquiez au début de l'entretien, Emmanuel Allois, Il y a celui de Kunstvollen, mais enfin vous le prononcerez mieux que moi, c'est-à-dire de vouloir artistique.
Oui. Moi, je suis toujours un peu embarrassé face à cette notion, et d'ailleurs dans ma postface, j'en parle très peu. Elle a suscité énormément de commentaires. Hein. On y a vu une espèce de tentative pour penser un devenir de l'art qui serait dégagé de la subjectivité d'un artiste, qui serait dégagé d'autres contraintes historiques, économiques, matérielles. Et en même temps, je pense à l'analyse qu'a pu en faire quelqu'un comme Panofsky, elle serait, c'est le reproche qu'on lui a fait,
qui a critiqué
ce concept tout en essayant de le sauver. Enfin, donc il y a d'autres auteurs, des sociologues comme Karl Mannheim qui ont essayé de le reprendre à leur façon pour montrer qu'au fond, il fallait le sauver, mais qu'il était encore trop psychologisant, trop ethnocentrique, trop ceci, trop cela. Bon, moi, je pense que le moment est vraiment venu pour voir qu'il y a d'autres notions tout aussi fascinantes chez Riegel. Et peut-être qu'il faut laisser un peu tranquille ce Kunstwollen, ce vouloir artistique qui... peut-être que certains parviennent à travailler avec cela. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'il faut combattre le Kunstwollen parce que, heureusement... Le fait du succès de ce terme est heureusement déjà passé. Mais je pense qu'il faut au contraire aller voir d'autres notions qui sont plus fascinantes chez Riegel et sur lesquelles on s'est moins arrêté. Et c'est notamment toute cette pensée des régimes sensoriels, d'une pensée de la forme qui n'est pas dissocier l'expérience. Et ça, par exemple, prenez un auteur français comme Henri Faucillon, qui écrit un éloge de la main. Alors on va se dire, bon, mais très bien, on va trouver quelque chose comme une pensée de la tactilité. Et puis, il va écrire une vie des formes. Et on ne voit pas trop le lien entre l'un et l'autre, puisque l'éloge de la main et la vie des formes indiquent deux voies qui me semble assez contradictoire, c'est une pensée de la forme et une pensée de l'expérience, et on ne voit pas trop comment les deux se rejoignent. Dans la vie des formes, Faucillon va nous dire « la forme engendre des formes ». Riegel nous donne une autre piste, il nous dit « la forme engendre une expérience et l'expérience engendre une forme ». Et ça me paraît quand même un chemin beaucoup plus intéressant à suivre.
Il y a quelqu'un que vous avez cité tout à l'heure qui a reconnu sa dette envers Riegel, c'est Walter Benjamin.
Oui, alors c'est une autre magnifique lecture, celle de Benjamin, puisque Benjamin, à plusieurs reprises, et notamment dans l'origine de l'œuvre d'art, et puis surtout dans les thèses sur l'histoire, et puis dans plusieurs comptes rendus qu'il fait de l'historien de l'art contemporain, indique la nécessité d'une prise en considération de ces voies délaissées, des objets mineurs, des objets moindres, des bas-côtés de l'histoire. Donc je pense qu'il y a deux inspirations majeures que Benjamin trouve chez Riegel. C'est une pensée de la temporalité, voire de l'historicité de la perception, qui va être cruciale dans sa façon de repenser la transformation des expériences à l'époque moderne. Et puis, il y a cette découverte d'une histoire qui écrit des réalités mineures, qui va s'intéresser à des époques, à des pans de l'humanité qui ont été délaissés, auxquels on a même nié la possibilité même d'une histoire. C'est des invasions barbares. Donc, au fond, en 1313, on arrête le compteur et puis on recommence, je ne sais pas trop, avec Charlemagne ou peut-être même avec la Renaissance italienne pour être sûr qu'on ne s'embête pas trop. Et là, je pense que c'est une autre façon de faire de l'histoire. C'est un peu ce que j'ai essayé d'indiquer dans ma postface, ce que j'ai appelé une histoire de l'art mineur. Riegel s'intéresse, il faut quand même le reconnaître, à la fin du XIXe siècle, il s'intéresse à des des formes ornementales chez les Maoris, il va s'intéresser à des calendriers de bois de la Renaissance, il va s'intéresser à l'astrologie, il va s'intéresser à des objets complètement oubliés, délaissés, marginaux, il va s'intéresser à la production industrielle de certains objets dans les Pays-Bas hollandais. Donc, Warburg, dont on a beaucoup parlé, Abby Warburg, le grand historien de l'art et inventeur de, en certain sens, d'une pensée de l'image, ira évidemment dans ce même sens. Mais je pense qu'il faut reconnaître aujourd'hui tout cet éclecticisme de Riegel qui est extrêmement stimulant et qu'il a été évidemment pour quelqu'un comme Benjamin qui a su reconnaître cette pensée-là.
L'affirmation du caractère historique de toute perception.
Voilà, du caractère historique de toute perception, qui est donc une pensée assez radicale, hein, reprise aujourd'hui, par exemple, par historien de l'art comme Hans Belting. On pourrait écrire quelque chose comme l'histoire d'un regard. Qu'est-ce que c'est que l'histoire d'un regard? Quel est le temps d'un regard? Comment regarder des œuvres qui ont été regardées avec d'autres yeux que nous, mais aussi la pensée d'une œuvre dont le regard doit être constamment renouvelé, puisque ça pose la question, mais est-ce que forcément le regard du créateur d'une œuvre est le bon regard, est le regard juste? Est-ce qu'il faut se régler sur la façon dont le créateur d'une œuvre a voulu que son œuvre se regarde pour atteindre la vérité d'une œuvre? C'est pas certain. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans cette magnifique édition, c'est d'ailleurs, elle est bien plus belle que l'édition allemande, hein, avec ses illustrations couleurs, on revoit des œuvres, peut-être que les contemporains n'étaient même pas en mesure de voir de la même façon. C'est réagencer, réorganiser constamment les œuvres pour y voir quelque chose que les autres n'avaient pas vu. Et ça se joue, je crois, dans un espace de partage. On ne voit jamais tout seul. Je crois que ça, c'est une des grandes découvertes de Riegel, c'est qu'on voit toujours à plusieurs. Et il faut relire aussi son grand ouvrage sur le portrait de groupe hollandais, où il indique quelque chose comme la constitution d'un espace partagé du regard qui se joue dans la façon de prendre acte du fait qu'on est entouré des présences des autres et que le regard n'est jamais unidirectionnel, qu'on regarde et qu'on est regardé, qu'on est pris en retour par le regard. Et ça dessine des triangulations, ça dessine des espaces communs qui sont des espaces qui vont bien au-delà, d'ailleurs, de l'expérience de l'art.
Emmanuel Laloa parlait de l'industrie d'art romaine tardive d'Alois Riegel, publié chez Macula. Du jour au lendemain, Jean-Michel Bernaud, Clotilde Pivin, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir.